Vous êtes sur RTL. RTL Matin.
Stéphane Carpentier.
9h, c'est Agnès Bonfillon qui vous dit tout, qui vous informe. Bonjour Agnès.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Toujours 7 gardes à vue en cours après l'attaque au hachoir hier à Paris.
Deux personnes ont été gravement blessées alors qu'elles fumaient une cigarette devant leur société de production, à quelques mètres à peine des anciens locaux de Charlie Hebdo, rue Nicolas Appert, dans le 11e arrondissement de la capitale. Là où avait eu lieu la tuerie il y a 5 ans et dont le procès d'ailleurs se tient depuis 3 semaines. Le principal suspect d'hier a été arrêté quelques minutes après les faits. D'origine pakistanaise, il serait arrivé en France seul il y a 3 ans. Et nous allons y revenir dans un instant. Les riverains, déjà très marqués par l'attentat de 2015, sont sous le choc. Pierre-Olivier est le patron du bar Le Poulailler, juste à côté.
Les victimes, malheureusement, on les connaît. C'est des personnes qu'on voit souvent dans une boîte de production et dont la fille fêtait son anniversaire hier. Donc c'est ça qui nous a fait aussi beaucoup de peine. On était choqués évidemment par l'événement qui arrivait parce que ça nous rappelle des souvenirs assez tristes et douloureux. Donc voilà. J'ai envoyé des textos maintenant un qui a été blessé. Ils sont des amis qu'on connaît bien. Voilà, je leur ai envoyé deux textos. Après, quand ça allait bien, je leur ai expliqué qu'on leur faisait des bisous, mais après, c'est l'incompréhension, quoi. Charlie Hebdo, ils sont plus là depuis 5 ans. Donc, après, voilà, on comprend pas. C'est vrai que quand j'ai vu ce matin tous les camions, les voitures de police, les policiers civils, tout le monde, les sapeurs-pompiers qui étaient au-dessus, rue Charles Noir, au bout de l'allée verte, on s'est dit, ouais, évidemment, il s'est passé quelque chose, quoi. Un peu dégoûté, un peu triste.
Des propos recueillis par Valentin Boisset pour RTL. On le disait, 7 personnes sont en garde à vue ce matin. Le principal suspect, 5 hommes arrêtés lors de perquisitions à Pantin en Seine-Saint-Denis hier soir. Et il y a quelques heures, un autre individu, l'ancien colocataire de l'auteur présumé, a été à son tour appréhendé. Bonjour Cindy Hubert.
Bonjour.
Le principal suspect, lui, serait arrivé en France en 2018 alors qu'il était mineur.
Oui, l'homme serait né au Pakistan, à Islamabad. Il a à peine 16 ans quand il débarque en France. C'est en tout cas ce que dit son extrait de naissance. Le conseil départemental du Val-d'Oise tente alors de contester sa minorité. Mais le juge refuse, comme c'est souvent le cas, de faire des examens osseux, pas toujours très fiables. Le jeune homme est donc pris en charge jusqu'à ses 18 ans par l'aide sociale à l'enfance. Il ne présente aucun signe de radicalisation. Il n'est pas suivi non plus par la DGSI. Mais il a déjà croisé la route de la police. C'était en juin dernier. L'homme se baladait dans Paris avec un tournevis. Il avait fait l'objet d'un rappel à la loi, mais rien de plus. Cet été, il est devenu majeur, plus de prise en charge. Le jeune homme est parti s'installer à Pantin, en Seine-Saint-Denis, dans un petit appartement avec d'autres colocataires pakistanais, dont 6 toujours en garde à vue ce matin.
Cindy Hubert du service police-justice de RTL. Le parquet national antiterroriste a été saisi de l'enquête. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, lui, estime que la menace dans cette rue a été sous-évaluée. Il demande à la préfecture de police de Paris des explications. Pourquoi, en plein procès de la tuerie de Charlie Hebdo, les anciens locaux de l'hebdomadaire n'étaient-ils pas sous surveillance? En tout cas, depuis hier soir, la vigilance est renforcée sur plusieurs sites de la capitale, le Bataclan, l'Hypercacher. Les synagogues également en ce week-end de fête juive.
L'épidémie de coronavirus, les chiffres donnés chaque jour par les autorités confirment, Agnès, une recrudescence des contaminations.
Près de 16 000 cas supplémentaires en 24 heures pour tenter d'endiguer cette progression. Des restrictions sont prises selon la circulation du virus dans les départements. Et parfois, entre directives nationales et locales, ce n'est pas simple de s'y retrouver. Exemple à Paris, les gymnases vont finalement être fermé, sauf pour les activités périscolaires. En revanche, pour les piscines, là, c'est le grand flou, Aurélie Valarier.
Effectivement, la préfecture de Paris a décidé de ne pas suivre les recommandations du gouvernement. Hier, elle a publié un communiqué où on peut lire que les piscines resteront bien ouvertes, je cite, dans les conditions habituelles, qu'elles soient ouvertes ou non. Alors, j'ai décidé de passer quelques coups de fil dans plusieurs piscines parisiennes ce matin pour vérifier tout ça. Et vous allez voir, ce n'est pas clair pour tout le monde.
J'en sais rien parce que avec les nouvelles lois, les nouveaux trucs, on sait pas trop encore.
Est-ce que la piscine est bien ouverte?
Oui, sinon je vous réponds pas. Pas de changement. Ne bouge pas. Il faudra rappeler lundi ou à chaque fois que vous veniez, mais lundi plus précisément, oui. Voilà. Demain, vous appelez aussi. Là, je sais pas demain.
Voilà, 3 appels, trois réponses différentes, ça c'est pour les piscines. Mais il y a aussi un autre sujet qui porte à confusion, c'est les rassemblements. Dans le communiqué de la préfecture, toujours, il y a bien marqué que les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits. Mais quelques lignes plus bas, on lit que ceux déclarés en préfecture sont autorisés, c'est-à-dire les manifestations. Bref, vous l'aurez compris, il y a les annonces nationales et les applications locales. C'est le cas à Paris, mais pas que. Donc vérifiez bien auprès de votre préfecture les mesures qui s'appliquent dans votre département.
Merci beaucoup Aurélia. À Marseille, en tout cas, les bars et les restaurants vont devoir fermer dès demain soir. Ils ont obtenu un délai de 24 heures, mais pas plus. Olivier Véran s'est rendu sur place alors que les professionnels faisaient part de leur grande colère, Hugo Hamelin. Ces nouvelles mesures, ils le vivent mal.
Démission ! Oui, très mal. Et l'arrivée en catimini par une porte dérobée d'Olivier Véran à l'hôpital de la Timone hier n'a pas apaisé les choses alors que 200 restaurateurs l'attendaient devant les grilles. Des professionnels remontés contre ces fermetures d'office.
Marseille est punie. Marseille est sévèrement punie. Mais au-delà des cafés, droits, restaurants, c'est des dizaines de milliers d'emplois. C'est toute la partie des professionnels de la distribution qui travaillent essentiellement avec les hôtels, avec les restaurateurs. Donc c'est des piliers d'économie qui sont en train de s'effondrer. Et je pense qu'on ne prend pas la mesure dans la mesure. Qu'est-ce qu'on veut? Que Marseille devienne des favelas?
Alors le ministre délégué au PME a promis des aides pour tenter de calmer ses restaurateurs et ses cafetiers, mais il a refusé d'offrir un délai supplémentaire à Alain Griset.
Je comprends bien leurs difficultés, leur désarroi, leur détresse, mais il vaut mieux fermer 15 jours que d'être confiné pendant 3 mois. Et nous, on assumera pendant 15 jours la totalité de leurs pertes et leurs difficultés financières.
48 heures de répit donc pour les restaurateurs marseillais les plus réfractaires promettent de rester ouverts.
Le reportage d'Hugo Hamelin à Marseille pour RTL.
Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est un petit peu flou l'histoire quand même. On espère qu'on y verra plus clair demain, dimanche, puisque le ministre de la Santé en personne, Olivier Véran, sera l'invité donc demain à midi jusqu'à 13h du grand jury RTL Le Figaro LCI. Vous restez bien là, il est à 9h07 en ce samedi, nous sommes le 26 septembre. Et il y a un an, jour pour jour, s'éteignait Jacques Chirac. A tout de suite.
RTL Matin. RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
La suite du journal avec Agnès Bonfillon. La mort de Jacques Chirac, c'était donc il y a un an, jour pour jour.
Le 26 septembre 2019, de très nombreux anonymes rendaient hommage au président de la République, souvenez-vous, alors qu'au niveau local, on assurait vouloir célébrer la mémoire de ce dernier avec une place, un bâtiment, une rue, une avenue à son nom. Un an plus tard, l'émotion est retombée. Les élections municipales sont passées par là. Bilan, pas mal de projets sont encore dans les cartons, William Galibert.
Oui, beaucoup de promesses ont fait pchit. À Marseille, par exemple, Jean-Claude Gaudin imaginait déjà le rond-point du Prado près du stade Vélodrome, rebaptisé Jacques Chirac. Mais un an après, rien n'a bougé. L'ancien maire est parti et dans la nouvelle équipe marquée à gauche, on l'avoue sans peine, on a d'autres priorités, même si l'idée n'est pas officiellement abandonnée. Même situation à Strasbourg. C'est pas demain la veille que vous marcherez sur une avenue Chirac, assure un élu d'opposition qui croit savoir que Jacques Chirac n'est, je cite, pas trop la tasse de thé de la nouvelle maire écolo de la ville. À Paris, ça traîne un peu, mais la mairie fait savoir qu'elle reste en contact avec la famille pour trouver le lieu le plus adapté et le plus symbolique pour un hommage. En tout, une cinquantaine de lieux en France portent tout de même déjà le nom Chirac. Une place à Nice, un jardin à Arcachon ou encore un palais des sports à Montauban. Et à Papeete, en Polynésie, depuis le mois de juin, une esplanade Jacques Chirac plantée de cocotiers fait face à la mer. Et comme disait l'ancien chef de l'État, c'est loin, mais c'est beau.
L'enquête de William Galibert pour RTL.
Les sports, Agnès, c'est un aller simple pour le retour de Yoka.
Le boxeur français n'a fait qu'une bouchée de Johan Duopa à Paris, la Défense Arena hier soir. Arrêt de l'arbitre dès la première reprise. Vite fait, bien fait, la 8e victoire consécutive de l'ancien champion olympique. Peut-être un peu trop vite, selon lui.
Même si je suis un peu frustré, j'aurais voulu faire plus de rounds, j'aurais voulu que ça dure un peu plus, peut-être avoir mal, tester mes limites. C'est vrai qu'on se demande à chaque fois, avant chaque combat, est-ce que Tony l'encaisse ? Voilà, peut-être qu'il a un menton fragile, c'est pas de ma faute si on ne l'aimait pas. Donc voilà, après, je suis quand même content du déroulé du combat, je suis content d'avoir pu battre Duopa au premier round, c'est du jamais vu, personne ne l'avait jamais fait. On va pas se plaindre, je pense qu'il faut que je continue à boxer, il faut que je fasse au moins 5-6 combats d'ici l'été prochain pour pouvoir viser autre chose l'année prochaine.
Tony Yoka avec Isabelle Longer. pour RTL. Retour gagnant également pour sa boxeuse d'épouse, Estelle Mosliyoka, qui s'est imposée au point. En foot, un nouveau leader en Ligue 1. Lille a battu Nantes 2-0 et pris les commandes en entendant le duel entre Saint-Etienne et Rennes. Ce sera aujourd'hui à 17h. Marseille accueille pour sa part Metz. Ce sera à 21h. Match à vivre dans RTL Foot. Juste après, on refait le match présenté à 18h30 par Christian Olivier.
Et puis visiblement, virus ou pas, les Russes, eux, comptent vivre à fond leur Grand Prix de Formule 1.
Ce week-end se tient la 10e manche du championnat du monde à Sochi. 30 000 billets ont été vendus. Les organisateurs jurent que toutes les précautions sanitaires sont prises, sauf que sur les bords de la mer Noire, il y a beaucoup, beaucoup de monde, notamment dans les hôtels où sont logés les pilotes, Frédéric Veil.
Oui, alors que le monde de la Formule 1 tente de vivre avec le coronavirus, que d'importantes mesures barrières avaient été jusque-là prises lors des 9 premiers Grands Prix, eh bien les organisateurs russes, eux, semblent avoir ignoré que la pandémie était toujours là. Résultat, 30 000 billets vendus en quelques heures, un autodrome plein pour la course et une cité balnéaire qui grouille de touristes, comme l'a constaté Romain Grosjean, l'un des 3 pilotes français.
Il y a énormément de monde dans la région, des fans, des gens en vacances, mais en ce moment, c'est du côté de l'hôtel où je me sens pas en sécurité, parce qu'en Russie, le port du masque n'est pas obligatoire, parce qu'on a beaucoup de fans dans l'hôtel. J'ai juste pas envie de l'avoir, le coronavirus, parce que derrière, j'ai pas le droit de faire de la course automobile et j'ai pas le droit de faire mon métier. Donc on va essayer de faire encore plus attention.
Et pour la course, les fans seront accueillis au parc olympique, où en plus du Grand Prix de Formule 1, des concerts et un festival Drive and Motors sont également au programme. Mais paraît-il, dans le plus grand respect des restrictions sanitaires.
Frédéric Veil pour RTL. Et maintenant, écoutez ça.
S'il vous plaît, merci. Merci.
Le bruit du silence, ou presque. France Télévisions va diffuser les spectateurs version calme, concentré sur le match à Roland-Garros à partir de demain. Une ambiance captée lors de la dernière édition avec un peu de bruit de fond, car il faut bien trouver la parade pour éviter que le cours ne ressemble à une caisse de résonance. Sachant que cette année, avec l'épidémie, on le rappelle, la jauge est abaissée à 1000 personnes. 1000 personnes à partir de demain à Roland-Garros.
Roland-Garros demain, bien sûr. On sera avec Guy Forget demain matin à 9h10 pour savoir comment le patron de ce grand tournoi du Grand Chelem, justement, aborde cette quinzaine vraiment particulière. Merci Agnès. RTL.fr, vous avez toute l'actualité. Vous allez cliquer quand vous le souhaitez. Le temps, Anthony, ça se confirme avec les messages des auditeurs. Fait pas chaud au réveil là ce matin. Hein.
Exactement. Grande fraîcheur. On est souvent entre 4 et 8, 9 degrés ce matin sur les trois quarts du pays. Une fraîcheur qui va se poursuivre dans l'après-midi avec seulement 10 à 16 degrés sur l'essentiel du pays. 11 à peine à Strasbourg et Nancy, 13 pour Abbeville et Ambérieu, 14 à Rouen, à Besançon, à Lille, à Tarbes, 15 pour Paris, Bordeaux et Toulouse, 18 certes à Biarritz et Perpignan et tout de même 23 degrés à Nice, le tout sous un ciel généralement gris, couvert avec des pluies entre les Hauts-de-France et le Grand Est, d'autres pluies qui reviennent par le sud-ouest, notamment de la Vendée jusqu'aux Pyrénées, et d'ailleurs Météo France place 2 départements en alerte pour risque d'inondation, vigilance orange sur les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques, avec d'ailleurs des pluies qui vont se renforcer sur ces deux départements ce soir, mais entre ces deux zones de pluie, on a quelques éclaircies qui peuvent percer entre la Normandie, l'Île-de-France, c'est le cas d'ailleurs au-dessus de Paris actuellement, éclaircies qui pourraient aussi gagner le Massif central et la Bourgogne dans l'après-midi, mais avec cependant tout de même un risque d'averse. Le soleil, lui, va se maintenir toute la journée autour de la Méditerranée, mais avec un fort mistral, alors pas sur l'ouest de la Corse, où là on aura tout de même quelques averses, et puis donc demain, ce sera déjà le retour de la pluie par le nord, des pluies qui seront d'ailleurs assez soutenues entre l'Île-de-France et la Bourgogne.
Demain encore pire, hein, c'est le programme que vous nous annoncez, Anthony. Merci à vous. Ça ne doit pas vous empêcher d'aller participer aux virades de l'espoir de la mucoviscidose. Ce sont toutes ces opérations demain dimanche qui ont pour but de récolter des fonds pour la recherche destinée aux enfants. Il faut absolument participer à tout cela partout dans le pays. Demain dimanche, les virades de l'espoir de la mucoviscidose. Les courses et autres.